Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonjour à toutes et bonjour à tous qui écoutez Micro Rebelle. Vous êtes à l'écoute de l'émission Micro Rebelle Hebdo, diffusée tous les vendredis de 18h à 19h sur notre site microrebelle.fr et rediffusée par nos amis de Radio PFM 99.9 à Arras. Une émission spéciale aujourd'hui car Micro Rebelle Hebdo cet été est différente de d'habitude. Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine un agenda social et culturel, un communiqué d'une association ou d'un collectif engagé, une revue d'actualité et de presse, des infos locales et internationales sur les luttes, les événements et les mobilisations à travers des interviews, des chroniques et de la musique toujours libre. Micro Rebelle Hebdo, cette semaine, reçoit un invité, Xavier Morin, qui donne des ateliers d'éducation populaire et notamment sur le tirage au sort. Il fait partie du réseau Salaria. Bonjour Xavier, qui est un curieux, un lecteur, un chercheur. Et parmi d'autres choses, et sur d'autres thématiques, Xavier propose un atelier sur la démocratie et le tirage au sort. Ou plutôt, et sans révéler toute la suite de l'histoire, peut-être plutôt sur les différences entre un régime électoraliste et un régime fondé sur le sort, qu'on peut appeler aussi stochastique, avec un CH de stokos, le hasard. Alors, c'est un thème très intéressant qui a fait partie notamment aussi de mes recherches pendant mes études. C'est un thème qui soulève la question de l'égalité. On peut considérer l'isonomie comme un principe qui serait nécessaire pour la démocratie. C'est un thème qui est aussi un des grands échecs de la Révolution française, peut-être, mais aussi un échec du mouvement révolutionnaire plus largement. Et puis, y a cette grande question de face à l'illusion d'une perte de maîtrise avec cet outil qu'est le tirage au sort. Ce thème révèle des grandes possibilités dans le contrôle du pouvoir. Et alors, on va explorer ça plus en amont. Je vais laisser plutôt Xavier nous parler de tout ça. On est très heureux de te recevoir, Xavier.
Oui, merci beaucoup pour cet accueil. Je voudrais témoigner d'expériences d'ateliers que je qualifierais d'éducation populaire sur le thème de la démocratie. Alors ça m'est venu à l'occasion de Nuit Debout il y a 5 ans. À l'époque, moi je faisais des ateliers sur le salaire à vie, puisque je suis militant au réseau Salaria, pour ceux qui connaissent Bernard Friot et les thèses du salaire à vie. Mais je voyais bien parmi toutes les bonnes volontés autour de moi une croyance presque aveugle dans le système électoral. On allait faire la révolution par les urnes, il suffisait d'aller voter tous à gauche, disons, un terme assez flou, mais à gauche. Et enfin, on pourrait commencer à changer notre condition sociale. Or, personnellement, je considère que la démocratie, elle commence au travail. Il est illusoire d'avoir la démocratie dans les institutions politiques si on ne l'a pas au travail. Donc la démocratie dans laquelle nous vivons, il faut y mettre beaucoup de guillemets, c'est la démocratie bourgeoise, totalement liée au mode de production capitaliste. Alors qu'évidemment, si on instaure la démocratie au travail, c'est la fin du capitalisme. Il n'y a plus le pouvoir des propriétaires lucratifs et nous décidons comment produire, etc. Et je suis persuadé qu'un peuple qui maîtrise la production, qui décide ce qu'on produit, comment on le produit, comment on s'organise, sera un peuple qui également organisera son régime politique comme il l'entend. Voilà, c'est ça la base déjà qui m'a incité à proposer plus tard des ateliers sur la démocratie. Et alors, l'angle d'attaque que j'ai choisi, c'est de l'opposer la démocratie au sens où on l'entend, c'est-à-dire les élections, à la démocratie qui trouve des racines lointaines dans la Grèce antique, le tirage au sort. Voilà. Donc ça a été ma clé d'entrée pour animer ces ateliers. Et là, j'ai eu une grande surprise, c'est que c'est un atelier que j'ai fait juste peut-être 7 ou 8 fois, et qui à chaque fois fonctionne vraiment bien. Tous les participants participent, sont impliqués. Tout simplement parce qu'on a tous l'expérience d'aller, non pas voter, mais élire. Et on a l'expérience donc de l'isoloir et de la déception qui en résulte. Et donc j'ai commencé cet atelier, je peux en faire la description. Si...
Et avec cette déception, parfois on découvre aussi les soubassements qui, en fait, a priori, nous empêchaient déjà d'avoir le candidat qu'on voulait ou d'avoir finalement, et c'est ça l'important, la politique qu'on voulait.
Oui, bien sûr, il faut déconstruire en fait totalement le régime électoral. Il est l'objet d'une croyance très très forte. Nous adhérons en fait à ce qui nous dépossède du pouvoir. Nous adhérons pleinement au système électoral. On y met beaucoup d'énergie, beaucoup de croyances. La déception est d'autant plus grande. Donc il faut déconstruire. Et donc cette déconstruction, je la propose à travers l'opposition radicale entre élections et tirage au sort. Alors, comme l'enjeu d'un atelier d'éducation populaire, ce n'est pas de faire la leçon à des ignorants, mais au contraire de montrer que le savoir, ils l'ont, on peut le construire ensemble. Je commence toujours cet atelier en posant une question, sommes-nous en démocratie ? Et j'ai un tableau ou un paperboard, et je trace un trait vertical au milieu de la feuille, au milieu du tableau, avec à gauche, oui, nous sommes en démocratie, quels arguments vous proposez, ou non, nous n'y sommes pas, et quels arguments également les participants peuvent proposer. Et là, il y a beaucoup, même pas seulement des arguments, il y a aussi des émotions, il y a aussi du vécu, ça part dans tous les sens, et tout le monde participe. Je note au fur et à mesure tout ce qui est dit, à gauche et à droite, donc oui ou non, nous sommes en démocratie. Et ça a un intérêt pédagogique de commencer par une question ouverte, c'est que la participation devient, d'emblée elle est présente, et en fait d'emblée on va construire ensemble. Et ça c'est important dans l'éducation populaire, de sortir du rôle du sachant, de sa supériorité supposée. Voilà. Et alors, je pourrais te demander, sommes-nous en démocratie ?
On peut se prêter à l'exercice.
Voilà. Il y a plein d'arguments qui vont aller dans les deux sens.
Une première réponse que j'aurais, moi, est non, car ça n'est pas dans notre constitution.
Oui, effectivement, on peut approcher la question un peu à la manière d'Étienne Chouard sur la constitution, effectivement.
Par-delà Étienne Chouard, c'était, à force de l'entendre répéter par notre président ou dans les médias, nous sommes en démocratie, oui. En démocratie ceci, en démocratie cela, j'ai eu un moment de... Mais je vais aller vérifier. Mais en fait, non, on est en République.
Bien sûr.
On n'est pas en démocratie dans notre constitution.
Eh bien, on pourrait dire que nous sommes en oligarchie, en plutocratie,
oui.
C'est bien les riches qui ont le pouvoir.
Le plutos, l'argent.
Voilà, c'est un régime, donc quand tu oligarchie, c'est
oligos,
petit nombre. C'est effectivement un petit nombre qui gouverne, c'est une classe sociale qui se reproduit. Voilà, ce n'est jamais le peuple qui décide, le peuple ne fait qu'élire. Ils ne votent pas. C'est aussi un bon élément de réflexion à apporter. C'est la confusion entretenue par la bourgeoisie, c'est évident, entre élire et voter. Élire, c'est renoncer à voter, finalement. C'est donner tout le pouvoir du vote, de la décision sur tel ou tel dossier, telle ou telle question, à un représentant. Et en fait, à partir du moment où on glisse le bulletin dans l'urne, voilà, on se dessaisit de tout pouvoir de participation à la décision.
D'autant qu'il y a deux choses, a priori et a posteriori de cet acte d'élection, qui me paraissent ne pas être démocratiques, c'est que a priori, c'est les candidats eux-mêmes qui se désignent, donc ça n'est pas des candidats désignés par le peuple qui semblent être les meilleurs, comme l'ont fait au moment de la commune, de l'assemblée de la commune. Les gens étaient appelés à proposer des candidats. Là, c'est toujours à ceux qui demandent le pouvoir qu'on le donne. C'est eux qui s'autoproclament, qui se décident au sein de leur parti. Hein, bien sûr, il y a à nouveau le système de l'élection au sein même des partis. Mais il y a ce côté-là, a priori. Puis il y a l'autre côté, a posteriori, qui est le mandat qu'on leur donne. Il est très, très, très large, très libre aujourd'hui. on les surveille pas suffisamment.
Oui, d'autant plus dans la constitution de la Ve République, où alors là, c'est vraiment, ça atteint un degré quasiment maximal. Effectivement, c'est bien d'évoquer la commune, une expérience extraordinaire de démocratie populaire. Karl Marx y voyait la forme enfin trouvée du régime politique à venir. C'était un choc.
Ça a donné lieu au courant du communalisme.
Oui, effectivement.
Au courant du conseillisme aussi, la démocratie des conseils. Et puis, ils ont essayé d'appliquer un peu de démocratie directe. C'est passionnant, effectivement.
Voilà. Le système actuel, on pourrait le qualifier d'aristocratie élective. Nous sommes passés, en fait, en passant de l'ancien régime au régime capitaliste, d'une aristocratie héréditaire, de père en fils, les Bourbons, les Orléans, etc., à une aristocratie élective. Aristos, ce sont les meilleurs. Quand nous élisons, nous essayons de choisir le meilleur, la meilleure, pour gérer la cité. Donc c'est tout de même un progrès, il faut le reconnaître, de passer d'une aristocratie
héréditaire
à une aristocratie élective. Enfin, ça nous laisse sur notre fin.
Oui, et puis il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le pouvoir, c'est ce que tu posais avec la démocratie au travail, est-ce que le pouvoir, c'est le pouvoir décisionnaire ou le pouvoir de possession des moyens de production, etc. Et du coup, là, quand on parle tout de suite de démocratie élective, c'est le côté décisionnaire, exécutif, législatif, mais on a encore aussi le problème du pouvoir économique, là, on les élit pas à la tête des...
Ah oui, bien sûr, là, c'est le seul fait d'être propriétaire. Le seul fait d'être propriétaire d'un moyen de production, une usine, un entrepôt, un magasin, etc., vous donne le pouvoir de subordination sur les travailleurs. C'est une prise d'otage du capital sur l'ensemble de la société. C'est très écrasant.
À l'entrée de l'usine, à l'entrée de notre travail, on n'est plus citoyen. On entre, on a un autre statut.
Voilà, c'est ça. D'ailleurs, la notion de propriété est gravée dans le marbre, dans la Constitution. Elle est même qualifiée de sacrée, ça en dit long.
Voilà, c'est la laïcité.
Voilà. Donc, maintenant, c'est une telle croyance, et la propriété est tellement hors sujet, hors débat, comme quelque chose de posé définitivement à tête à la dame, que c'est un aspect désespérant. Mais c'est bien contre ça qu'il faut lutter et élargir, non seulement changer la démocratie au niveau du régime politique, mais ça, de mon point de vue, ça se fera d'abord par la démocratie au travail. Ça me paraît incontournable. Mais allons un peu plus loin, revenons sur mon atelier, si tu veux bien. Comment je l'organise
On a exploré quelques pistes pour dire non. Est-ce qu'on peut trouver quelques pistes pour dire oui?
Ah oui, il y a beaucoup de croyances encore, bien que ça commence à faiblir depuis quelques années.
Hein, Alors souvent, là, ce qu'on m'a répondu dans des débats là-dessus, c'est oui parce qu'on peut tout dire.
Alors c'est un autre aspect de la démocratie, effectivement. En général, les réponses se concentrent à 90% sur le système électoral. La démocratie, c'est les élections. La croyance est encore très très forte, notamment chez les plus anciennes générations. Mais effectivement, la démocratie, c'est aussi la liberté. Donc c'est la liberté de s'associer, la liberté d'expression, la liberté de manifester. Et on voit d'ailleurs que ces libertés-là sont actuellement
mises en péril.
Vraiment fortement mises en péril. Le niveau de violence policière a monté de plusieurs crans sur les 4-5 dernières années. En tout cas, c'était déjà le cas avant dans les banlieues et ça remonte à loin, cette violence policière. Ça remonte par exemple à la guerre d'Algérie, etc. Mais maintenant, elle concerne tout le monde. Elle ne concerne pas seulement les générations issues des anciennes colonies.
Il y a des travaux très intéressants de Fabien Jobard sur l'évolution de l'histoire du maintien de l'ordre. Oui. En France, que je vous conseille d'aller voir, franchement, ça...
Il y a aussi Mathieu Rigouste, qui a été publié à La Fabrique, et qui fait une étude très intéressante sur l'origine des violences policières depuis les colonies, qui sont importées ensuite en métropole et appliquées dans les banlieues, dans le 9-3, on pourrait dire. Et maintenant, ça arrive aussi pour les Gilets jaunes, pour les syndicats, etc. Voilà. Donc ça, c'est tout un aspect de la démocratie.
Et du point de vue des libertés associatives, il faut faire très attention à la loi sur la laïcité, qui s'est renommée loi confortant les valeurs républicaines. Là, je vous conseille un très bon reportage de Luc sur Micro-Rebelle, microrebelle.fr. C'est vraiment dangereux du point de vue des libertés associatives, car dans la loi, il y a des morceaux où on peut attaquer une association pour des actes faits par des adhérents, même hors cadre d'activité associative. Ou alors, il peut y avoir des audits faits sur des assos parce qu'ils ne respectent pas suffisamment la laïcité, les valeurs de la République. Il faut faire très attention avec ça. Il y a une charte qui a été signée par tout un tas d'associations et de personnalités publiques récemment. Voilà.
D'accord, tu me l'apprends, mais je n'en suis pas surpris. Donc, tous les outils de la démocratie hors élection, donc toutes ces libertés-là sont à l'évidence attaquées, réduites par tous les moyens possibles. Ça. Oui. Mais d'habitude, dans mon atelier, j'ai dit 90% des réponses concernent le système électoral, et ceux qui ont encore une croyance forte, une adhésion forte dans les élections, vont dire qu'effectivement, on a le choix. Si on n'est pas content de la politique menée, eh bien, on peut voter autrement, etc. Il y a encore cette croyance, même si elle faiblit, vu qu'après 20, 30 ans de fausse alternance, on va dire.
Mon ennemi, c'est la finance.
Voilà, donc tous ces mensonges-là ont tendance à grignoter cette croyance progressivement. Et je pense que je n'ai plus fait cet atelier depuis le début du Covid, donc ça fait quasiment 2 ans maintenant que j'en ai plus fait, mais je pense que les réponses des participants évolueraient, la croyance baisse. Voilà, c'est intéressant.
C'est intéressant d'aborder ce sujet à la veille d'une campagne présidentielle qui va être insupportable.
Oui. Oui, elle promet d'être vraiment ordurière, grossière. Mais c'était déjà le cas dans les dernières, donc il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Et donc sur le tableau ou le paperboard, j'ai 90% donc de réponses qui concernent le système électoral. Je signale aussi que la plupart des participants arrivent en se disant « Mais il est fou, on ne va pas choisir nos représentants, puisqu'il s'agit toujours de choisir des représentants, en tirant au sort. » C'est aussi ça qui les attire, c'est le tirage au sort. Qu'est-ce que c'est que cette idée farfelue quand on ne connaît pas cette proposition, on a une réaction de rejet immédiat. Donc ça nécessite une déconstruction de l'élection progressivement pour se rendre compte, c'est l'objet de mon atelier, que le tirage au sort a des vertus incroyablement démocratiques et qu'il faut juste l'encadrer pour éviter effectivement les peurs qui sont les nôtres de tirer au sort des incompétents, des fous, des méchants, etc. Donc il y a des outils pour ça. Voilà. Donc une fois que toutes les réponses ont été données en vrac, je sépare bien celles qui concernent le système électoral de celles qui concernent les libertés, parce qu'on va vraiment se concentrer sur le système électoral.
Ben, je propose qu'on fasse une pause musicale et que pendant ce temps-là, vous preniez un carnet, un stylo et qu'on propose à nos auditeurs et auditrices de faire le jeu avec nous. Essayez de faire une liste des a priori que vous auriez sur un système démocratique fondé sur le tirage au sort. Qu'est-ce que ça signifie, la démocratie? Est-ce que oui ou non, on est en démocratie? D'après vous, ça peut être intéressant et comme ça, on revient. On va prendre une chanson de 3 minutes qui s'appelle « La commune n'est pas morte ». Vous avez 3 minutes pour essayer de vous prêter à l'exercice.
On l'a tué à coups de chasse-pot, à coups de mitrailleuse, et roulé avec son drapeau dans la terre argileuse. Et la tourbe des bourreaux gras se croyait la plus forte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Comme faucheur rasant un pré, comme on abat des pommes, les Versaillais ont massacré pour le moins 100 000 hommes. Et les 100 000 assassinats, voyez ce que ça rapporte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Ils ont fait acte de bandits, comptant sur le silence, achevé les blessés dans leur lit d'ambulance, et le sang inondant les draps ruisselait sous la porte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas Nicolas que la commune n'est pas morte. Les journalistes, policiers, marchands de calomnie ont répandu sur nos charniers leur flot d'ignominie. Les Maximes Ducan, les Dumas ont vomi leur eau forte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Tout ça n'empêche pas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. C'est la hache de Damoclès qui plane sur leur tête. À l'enterrement de Falès, ils en étaient tout bêtes. Fait est qu'on était un fier tas à lui servir d'escorte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Ce qui prouve en tout cas, Nicolas, que la commune n'est pas morte. Bref, tout ça prouve aux combattants que Marianne a la peau brune, du chien dans le ventre et qu'il est temps de crier vive la commune. Et ça prouve à tous les Judas si ça marche de la sorte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte. Ils sentiront dans peu nom de Dieu que la commune n'est pas morte.
Et vous écoutez toujours Micro-Rebelle Hebdo, soit sur notre site microrebelle.fr ou bien sur les ondes de 99.9 PFM à Arras. Et vous vous trouvez là dans le cadre d'un atelier d'éducation populaire avec Xavier. Alors on revient sur le tirage au sort, la démocratie et puis surtout les différences entre le système fondé sur un tirage au sort et un système fondé sur l'élection. Et du coup, je me suis prêtée un peu à l'exercice et voici des préjugés sur l'élection, des choses qui me paraissent non démocratiques. Il y a le côté non-respect des promesses. Par exemple, même suite à la Convention citoyenne pour le climat, ou alors quand on pense au grand débat, ou quand on pense à d'autres choses, hein, le fait que après avoir été élu, les programmes électoraux ne sont pas respectés. Après, il y a la question de corruption, prise illégale d'intérêt, abus de pouvoir. Je pense l'enquête ouverte sur M. Dupond-Moretti, hein, dans le cadre de ses fonctions de ministre de la Justice, qui attaque des juges. Parce qu'ils font une enquête sur lui. Impunité aussi, il y a un gros problème d'impunité des élus quand il y a de l'abus. Et puis, sur les préjugés pour le tirage au sort, le gros préjugé qui... Bon, moi, j'ai bossé le sujet, alors du coup, j'ai moins les illusions, tout ça, mais je me dis, c'est le côté où on perd la maîtrise de celui qui décide pour nous, ou de ceux qui décident pour nous. C'est quelques pistes.
Oui, bien sûr, et il y en a beaucoup d'autres, mais vraiment beaucoup. J'en ai établi une liste, mais elle n'est même pas exhaustive. L'élection génère les partis politiques, par exemple. Voilà. Les partis politiques ont une seule raison d'être, c'est gagner l'élection. Et alors, on se retrouve en partis qui s'opposent, alors que, par exemple, on est de gauche, en face, il y a ceux de droite, on a toute une ligne dans le parti, et même si sur un point, sur des centaines... pourrait prendre l'idée du camp d'en face, c'est absolument interdit, c'est tabou, c'est de la traîtrise, etc. On est complètement phagocyté par le système des partis. Il faut bien prendre conscience que les partis politiques sont nés avec ce régime-là, n'existaient pas avant. C'est un exemple. Ils génèrent aussi, donc, de ce fait, c'est vraiment endogène, une classe politique professionnelle qui est totalement séparée du peuple peu à peu. En fait, c'est une aristocratie élective qui dégénère en oligarchie. Nécessairement, c'est sa pente naturelle. Voilà. Et donc, nous donnons le pouvoir à une classe sociale. Ça, c'est flagrant. Il suffit de voir l'Assemblée nationale ou le Sénat. Ce sont des assemblées de bourgeois. Il y a très, très peu d'ouvriers ou d'employés, de gens ordinaires que nous voyons tous les jours.
Parfois, c'est l'aide à domicile.
Voilà. Voilà. Il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de boulanger, il n'y a pas dans l'Assemblée nationale. Pourtant, ce sont bien eux qui font vivre cette société, qui font la production de tous nos besoins, etc. Mais ils n'ont rien à dire, finalement. Ils sont représentés par une bourgeoisie, voilà. Ensuite, par exemple, dans ces partis, nous ne choisissons pas les candidats. C'est une espèce de tambouille occulte à l'intérieur des partis, une guerre certainement assez violente.
D'égo.
Voilà, une guerre d'ego, une guerre de pouvoir. Mais nous, on...
Le clientélisme.
Voilà, et on se retrouve face à des candidats que nous n'avons pas choisis. Alors effectivement, ce système électoral, il génère nécessairement une campagne électorale. Donc il y a un financement de la campagne, donc une voie royale pour la corruption. Et cette campagne, elle passe par les médias. Et là aussi, il y a une pente naturelle vers la corruption. Il suffit, on sait très bien, on a vu les chiffres, plus on passe à la télé, plus on a de chances de gagner l'élection. Et on voit j'avais vu un graphique édifiant, c'était sur l'élection de 2016. 2007, je crois. Donc on voit les passages de la télévisée de Sarkozy, Ségolène Royal à l'époque, et tous les autres. Je crois qu'il y avait Bayrou, etc., Mélenchon, tout ce qui s'ensuit. Et en fait, ils ont une inégalité de passage à la télévision qui est flagrante. Le représentant du NPA, par exemple, ou de Lutte ouvrière, a 1% ou 2% de passage télé par rapport aux monstres qui sont en face d'eux. Et les résultats en pourcentage des élections forment une courbe quasiment, qui colle quasiment à la courbe du nombre d'heures de passage à la télé. Donc l'enjeu est énorme, mais bon, derrière, on imagine bien que si Sarkozy passe 50 fois plus que Besancenot, voilà, il est certain qu'il va faire 50 fois plus de voix aussi. Quoi.
Comme tu le disais, il y a une peut-être perte de cette illusion du système électoral. On a assisté quand même là à des élections départementales et régionales avec un immense taux d'abstention.
Oui, alors ça c'est le signe effectivement de la perte de la croyance qui prend différentes formes, qui peut être la colère, la fuite vers un ailleurs, un refus. Je pense qu'il y a un côté actif, engagé aussi dans l'abstention. Il n'y a pas seulement du « je m'en foutisme, je vais à la pêche », il y a aussi un message qui est passé à travers ça, qui ne fait qu'augmenter.
Donc 70% ça veut... d'abstention à Lille, donc on dit, enfin, c'est les campagnes qui votent le plus, hein, c'est pas les villes.
Voilà. Alors ça, est-ce que c'est à terme, qu'est-ce que ça va donner? Même quand il y aura 95% d'abstention, je pense que il y aura toujours des élus qui continueront. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. C'est un signe parlant, effectivement, mais ça ne suffit pas à changer le régime en soi. Mais moi, quand je présente cet atelier, je n'hésite pas à me présenter comme à montrer pour quel est mon camp. Mon camp, c'est le tirage au sort. Donc, et je rappelle dès le début qu'on l'a oublié depuis deux siècles, un peu plus de deux siècles maintenant, mais jusqu'au XVIIIe siècle, donc depuis Aristote, depuis Platon. Parce qu'il était évident pour tout le monde, mais c'était une évidence que la démocratie, c'est le tirage au sort.
Et que le tirage au sort permettait l'égalité.
Voilà, et que par contre, l'élection, là, c'est aristocratique. Mmh. Voilà.
Et la fameuse phrase de Sieyès, d'ailleurs.
Alors voilà, c'est là que je voulais en venir. Sieyès, donc l'abbé Sieyès, qui est l'un des fondateurs de notre régime politique, de la Constitution, nous dit ceci. Les citoyens qui se nomment des représentants renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif. Ce serait un État démocratique. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Alors là, on voit déjà d'emblée cette création, parce que c'est quand même une création historique extraordinaire, à la fin du XVIIIe siècle, de ce régime politique avec ce système électoral. D'emblée, il est hors de question de donner le pouvoir au peuple. Le peuple est exclu. D'ailleurs, au début, il y a le vote est censitaire. Il faudra vraiment lutter pour qu'on ait le droit de vote, encore plus pour les femmes, d'ailleurs, au XXe siècle. Il faut attendre jusqu'au milieu du XXe siècle pour qu'il y ait aussi les femmes.
Il est colonisé.
Voilà, en plus, voilà. Donc, alors, mais même si nous avons tous ce droit de, non pas de voter, mais d'élire, il n'empêche que ça reste toujours un système aristocratique. Et puis, il y a un ouvrage qu'il faut citer à ce sujet, c'est l'ouvrage du Canadien Dupuy-Déry, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Son ouvrage, c'est « Démocratie, histoire politique d'un mot ». Et c'est très intéressant, il remonte au XIXe siècle, aux États-Unis et en France, pour montrer comment ce qui n'est pas une démocratie, ce qui était à l'évidence pour tout le monde, ce n'était pas une démocratie, l'élection n'a jamais été démocratique, et comment ça s'est renversé au début du XIXe siècle, et que finalement, on a considéré, jusqu'à une l'évidence contraire, que la démocratie, c'est l'élection. Il donne l'exemple du président Jackson, je pense que c'est vers 1830 à peu près, qui, pour gagner l'élection, choisit d'avoir une campagne électorale dans laquelle il va s'affirmer comme démocrate. Et ça fonctionne, il est élu. Cette stratégie commerciale fonctionne. Et donc, ça va entraîner, dans les élections suivantes, le fait que tous les candidats vont se dire démocrates. Et donc, finalement, peu à peu, le système électoral va être considéré comme la démocratie. Voilà. Ça s'est fait progressivement, de la même façon en France. Maintenant, nous avons cette croyance qui nous est enseignée à l'école, qui nous est répétée dans les médias, etc., que la démocratie, c'est l'élection.
Est-ce que c'est à partir du suffrage universel Est-ce que l'histoire de cette croyance, le suffrage universel, a posé un...
n'a fait qu'amplifier cette croyance.
Oui, voilà.
Et effectivement, je suppose qu'au XIXe siècle, où il y avait encore un système électoral censitaire, réservé aux riches, effectivement, il devait y avoir un questionnement dans le peuple sur cet aspect-là, une critique de l'aspect non démocratique du fait qu'il n'avait pas accès à l'élection. Et donc, effectivement, quand peu à peu, jusqu'au milieu du XXe siècle, on est arrivé enfin, disons, à un droit d'élire universel, à peu près, là, la croyance a pu être totalement imprégnée toute la société. D'autant plus qu'il y a toute l'hégémonie culturelle qui passe par l'éducation à l'école, par ce qui nous est répété à longueur de journée dans les médias. Donc cette croyance que l'élection, c'est la démocratie, maintenant, elle ne commence qu'à s'abîmer depuis que la crise économique et que l'alternance économique n'y change rien. Quoi, voilà. Mmh. Mais la croyance est encore là.
Elle est forte.
D'où l'utilité de faire des ateliers sur ce sujet. Voilà.
Alors qu'est-ce qui... Pour en revenir au tirage au sort, qu'est-ce qui fait que le tirage au sort est particulièrement un outil particulièrement constructif pour être sur un pied d'égalité, donc pour un régime démocratique?
Alors là, je passe rapidement sur ce que tu as déjà dit sur la notion d'égalité. Effectivement, le tirage au sort fait que le fameux boulanger ou l'infirmière peut être amené à être tiré au sort. Voilà. Tandis que dans le système électoral, jamais... Mais absolument jamais, elle n'aura accès au pouvoir. Ça, c'est une évidence.
Sauf avec un système où ce sont les gens qui désignent leurs candidats parmi les plus compétents, un petit peu comme à l'appel de l'Assemblée de la Commune. Mais
voilà.
On n'est pas du tout là-dedans.
Alors peut-être que le système électoral est réformable pour devenir un peu démocratique, certes, mais il n'aura jamais la puissance démocratique du tirage au sort.
Mais en fait, effectivement, on restera républicain, enfin électoraliste.
Voilà.
Ce qu'on peut faire, c'est contrôler les élus, essayer de les empêcher d'être dans la corruption, essayer au maximum de poser des conditions hein, d'exercice qui ne leur permettent pas d'avoir des largesses, des abus de pouvoir.
Oui,
mais c'est quand même électoraliste.
Voilà, on peut limiter les dégâts, certainement. Mais le tableau dont j'ai parlé au début, des réponses des participants. Donc, je change de tableau dans une fois toute cette présentation faite. Je fais un deuxième tableau. Donc, à gauche, élection. À droite, tirage au sort. Et donc, on déconstruit l'élection avec tout ce qui a été dit dans la première partie. Et on voit quelle est la situation de tel problème qui a été posé, comment ça se passe si c'était tirage au sort. Et à chaque fois, c'est flagrant, le problème disparaît d'emblée. Alors, on peut en faire une longue liste. Hein. Par exemple, le fait que l'élection génère nécessairement des partis politiques. Ah ben non, dans tirage au sort, non. Il n'y a pas besoin de tirer. Alors, dans le tirage au sort, non, il n'y a pas de parti politique.
Et de même que la professionnalisation.
Alors,
donc,
voilà.
On ne se retrouve pas avec des technocrates, des experts de la politique.
Voilà.
Mais là, du coup, il y a la question de la formation de ces personnes tirées au sort, la question de leur mandat et tout ça. Quoi. Mais là, ça devient intéressant, justement.
Oui, mais ça, on y vient progressivement. Il faut d'abord tout déconstruire, je pense. Oui. Donc, le fait que, oui, il n'y a plus de parti politique pour lutter à mort pour la conquête du pouvoir, c'est le hasard qui va en décider. Donc, la question est réglée. Donc, effectivement, il n'y a plus de classe politique professionnelle, puisque ça peut être toi ou moi. Ça peut être mon voisin d'en face. Ce n'est plus une classe sociale qui est au pouvoir. Le tirage au sort, c'est mathématique, notamment pour désigner une assemblée. Si, par exemple, on remplaçait le Sénat par une assemblée tirée au sort de citoyens, voilà, nous aurions à peu près l'image fidèle de la société française en face, voilà, représentée. Nous n'aurons pas une assemblée de bourgeois. Ensuite, il n'y aurait pas à choisir des candidats puisqu'il n'y a pas de candidats dans le système de tirage au sort. Donc il n'y a plus ce côté occulte où on ne sait pas, cette guerre intestine dans le parti politique qui va désigner un candidat que nous n'avons pas désigné nous-mêmes. Quoi. Donc plus de candidats. Dans ce système, il n'y a pas de candidats. Donc il n'y a pas de campagne électorale non plus. Tous les problèmes que les participants à l'atelier ont soulevés sur la campagne, les médias, la corruption, etc., tout ça, ça disparaît. Voilà.
Xavier, justement, je voulais poser des questions sur ça, sur cette possibilité de lobbying et de corruption. Là, en fait, tu parles du tirage au sort dans un contexte où ça serait presque ex nihilo et que... il n'y aurait pas un ancien système derrière de partis et d'entreprises. Mais tu ne penses pas que les entreprises et les gros lobbying essaieraient justement d'acheter les gens un à un au lieu de, là, dans le système actuel, par parti. Ça, il y a toujours cette possibilité, et ce serait peut-être plus opaque encore, non ? C'est pas compliqué, ça ?
Alors, oui, on peut réfléchir à ces questions-là, bien qu'on a des outils pour lutter contre. Tout est prévu à cet égard. Les Grecs, au temps de Platon, y avaient déjà pensé. Ils avaient déjà le fait qu'il y ait, pour éviter tous ces problèmes. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de multinationales. Hein. Il n'y avait pas cette puissance autour d'eux, mais il y avait des riches.
Il y avait la plutocratie.
Il y avait des riches et des pauvres, etc. Et effectivement, tant que ce n'était pas le tirage au sort, les riches avaient le pouvoir. Et à partir du moment où il y a eu le tirage au sort, avec cette merveilleuse machine qui s'appelle le clérotérion. Le clérotérion, avec un K, hein, clérotérion, était la machine. On peut voir ça sur Internet en fouillant, c'est assez touchant. La machine a tiré au sort. Cette machine était accompagnée, bien sûr, à côté de ça, d'outils pour éviter ce type de problème que tu soulèves. Par exemple, les mandats sont toujours courts et non renouvelables. Il y a la révocabilité en cas de suspicion de corruption ou autre. Il y a la reddition des comptes, c'est-à-dire que celui qui a été tiré au sort, il est surveillé avant. C'est-à-dire qu'on voit s'il n'a pas un passé un peu trouble. Il est surveillé pendant et il est surveillé après. On fait les comptes avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment, etc. Donc, c'est quand même, ça limite énormément ce que tu dis. D'autant plus que le temps de le corrompre est un peu court, puisque le mandat est court et non renouvelable. Et ce n'est pas une classe politique qui est à corrompre, ce n'est pas un parti. Enfin, ça me semble beaucoup plus difficile. Et j'ajouterais un autre aspect de la réponse à cette question, c'est que c'est mon point de vue, ça, c'est un point de vue marxiste entre infrastructure et superstructure. C'est le fait que pour obtenir un régime politique où le pouvoir et les représentants du pouvoir sont tirés au sort, il faut d'abord que le peuple ait conquis la démocratie au travail. Jamais on obtiendra un régime démocratique à l'aspect politique, au niveau des lois, etc., si on n'a pas d'abord obtenu la démocratie au travail. Ce qui signifie qu'on est sorti du capitalisme. Ce qui signifie que tous ces aspects de corruption sont... Je ne pourrais pas affirmer qu'ils ne peuvent plus se manifester, mais nous sommes dans un autre monde.
On est sorti du capitalisme quand on met en place, en fait, le tirage au sort.
Ce point est discutable, bien sûr. Hein, la question reste ouverte, mais on n'obtiendra jamais la démocratie pure, comme ça, directe, parce que c'est une démocratie directe dont on parle depuis tout à l'heure. On n'obtiendra jamais un régime politique en démocratie directe si on est toujours subordonné à des propriétaires lucratifs au travail. Absolument jamais.
Et alors, ce que je trouve intéressant dans toutes ces questions, c'est pour une fois, là, la philosophie n'est pas que abstraite. La philosophie politique, là, elle permet de réfléchir à des dispositions juridiques qui encadrent le pouvoir, l'exercice du pouvoir, et du coup, qu'ils soient économiques ou politiques, et effectivement, ils sont indissociables, et donc on n'a pas le pouvoir politique si le pouvoir économique reste au pouvoir des propriétaires et avec des fonctionnements héréditaires comme on connaît. Mais réfléchir à toutes ces questions permet de soulever des dispositions à prendre, des dispositions légales, juridiques, qui encadreraient l'exercice du pouvoir et qui les empêcheraient, même en amont, d'écrire les règles du pouvoir, potentiellement, si on parle d'une assemblée constituante tirée au sort, par exemple.
Oui, puis avoir aussi une étape intermédiaire, je pense, dans cette histoire. Par exemple, j'ai évoqué tout à l'heure le fait de remplacer le Sénat par une assemblée tirée au sort. Ça peut être une étape intermédiaire, c'est-à-dire que nous pourrions, dans un premier temps, garder l'Assemblée nationale avec les députés, même si, effectivement, elle n'est pas représentative du peuple, même si c'est une classe spécialisée, etc. Mais en face d'elle, lui mettre une assemblée populaire tirée au sort, et bien sûr dotée de pouvoir, par exemple le pouvoir de proposition aussi, et pouvoir de veto sur ce qui a été voté dans l'autre chambre. Ça pourrait être un apprentissage populaire, montrer que le peuple est parfaitement capable de prendre des décisions sérieusement, de défendre ses intérêts, etc. Ça serait éducatif, en fait, non seulement pour ceux qui seraient tirés au sort, mais également pour l'ensemble du peuple qui verrait que, par exemple, la loi travail ou la loi sécurité globale ou autre, eh bien, a été censurée par le peuple de la deuxième chambre. et qu'en fait, heureusement qu'on a cette chambre tirée au sort populaire. Ce serait vraiment exemplaire, je pense que ça nous donnerait plus confiance en nous-mêmes. Là, nous sommes un peu comme des enfants. En fait, nous sommes des enfants politiques, n'ayant pas beaucoup la parole. Hein. L'enfant, c'est celui qui n'a pas la parole. Au travail, nous sommes subordonnés aux propriétaires, hein, avec toute la chaîne hiérarchique. Et dans le régime politique, eh bien, nous ne votons pas, nous élisons et nous perdons tout pouvoir de décision. Il s'agit de... Alors bien sûr, on n'est pas spécialisé, on ne connaît pas, mais... On est parfaitement capable.
Non seulement il y a des sujets où on peut se renseigner, enfin on peut avoir un avis intéressant même sans connaître le tout, tous les détails. Je te laisse la parole, tu allais dire.
Oui, je voulais savoir sur, par exemple, le dernier exemple qu'on a eu un petit peu, qui a fait pchut, mais si on avait par exemple une convention citoyenne avec les pouvoirs exécutifs qu'on a dit, ça aurait été une chose positive ou pas en fait, dans cette perspective de tirage au sort?
Alors, je pense que c'est surtout une expérience pédagogique. Ouais. L'intérêt pédagogique est très puissant dans ce genre d'expérience. Ouais. Et en plus, il révèle le mensonge officiel, quoi.
On le voit d'ailleurs, le fait que la pratique de conseils comme ça, c'est pédagogique, on le voit dans les écoles Montessori où il y a des conseils d'enfants pour décider de ce qui se passe en classe, etc. Ben, les relations entre les élèves et leur niveau de responsabilité, de réflexion sur les choses, sur le monde qui les entoure est accru par ce genre de pratique.
Alors, j'ai un exemple merveilleux sur le sujet, c'est les conventions citoyennes de Jacques Testard. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Testard, c'est un scientifique, c'est le premier bébé éprouvette en France dans les années 80, je crois, et qui s'est peu à peu rendu compte que même la science, des enjeux si importants que les enjeux scientifiques, par exemple dans les nanotechnologies, etc., ne sont pas, les décisions sont prises sans aucune démocratie, pour uniquement sur des intérêts économiques, des lobbies, etc. Et donc il a commencé à mettre en place ce qu'il a appelé des conventions citoyennes et il les a progressivement améliorées. Le dispositif s'est amélioré progressivement. Il s'agit de tirer au sort des citoyens. Bien sûr, la plupart, il y a environ deux tiers, je crois, qui refusent. Donc il faut prendre du temps pour préparer donc un groupe qui soit représentatif de la société et qui soit tiré au sort et qui soit volontaire, parce que l'expérience est quand même d'assez longue durée. On leur pose une question souvent très très technique sur laquelle ils n'ont pas de compétences particulières. Par exemple, comme je le disais, sur le nucléaire, sur les nanotechnologies, sur ces questions où il faut des connaissances scientifiques assez poussées. Et ils vont travailler pour dire oui ou non à telle question sur un tel sujet. Alors on va leur présenter des experts des deux camps, de ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. On va leur présenter des documents, des documentaires, il y aura des discussions, etc. Ça va durer longtemps. Et en fait, on se rend compte, c'est ça qui est merveilleux, et Jacques Testard en témoigne, c'est les gens font ça avec beaucoup de sérieux. Ils travaillent vraiment sérieusement, ils veulent prendre une décision la meilleure possible, ils se sentent responsables. Dès qu'on les responsabilise, ils se montrent vraiment responsables. Et dans leurs décisions, ils vont pas prendre en compte leur intérêt personnel, en fait. C'est ça qui est beau. Ils vont prendre en compte l'intérêt général, si tant soit ça qu'il existe ou pas, l'intérêt général, c'est difficile à définir, mais ils vont penser, par exemple, est-ce que la décision n'a pas de conséquences négatives pour les gens qui habitent à l'autre bout du monde, ou pour les générations futures. Ils vont prendre en compte tous ces aspects-là avant de décider. Ils montrent que le peuple est parfaitement capable de travailler comme ça.
Bah c'est en ça que, d'ailleurs, la Convention citoyenne sur le climat, si on avait accepté déjà, si on avait mis en place toutes les choses qu'ils proposaient, c'était déjà pas mal. C'était une bonne réflexion quand même qui en est sortie pour un petit nombre. Hein. Ils n'étaient pas nombreux. Parce qu'on peut penser aussi à des assemblées très larges avec des petits groupes de travail pendant des mois qui ensuite réunissent leur travail.
Et donc là, on était sur l'aspect donc, du législatif, donc le remplacement d'une assemblée par un tirage au sort. Mais qu'est-ce qu'il en est des autres pouvoirs, justement, qui font aussi d'équilibre le judiciaire et le policier, en fait? Quel système pourrait les rendre aussi plus démocratiques? Parce que si on a une police qu'on a comme actuellement autoritaire et plutôt tendance dictature, hein, c'est aussi problématique et qui remet en cause aussi une autre incitation qu'est la justice. C'est pareil. Comment on fait pour rendre tout ça plus démocratique, puisque pareil, les magistrats, c'est pas le premier Pékin qui peut devenir magistrat.
Oui. Alors, effectivement, personnellement, quand je fais cet atelier, j'ai tendance à le centrer plus sur la désignation d'assemblée. C'est un peu plus rassurant comme première expérience. Et puis, ça permet de montrer qu'une assemblée peut représenter le peuple. Jamais une personne isolée peut représenter le peuple, c'est illusoire. Par contre, une assemblée, en niveau sociométrique, ça peut relativement coller à la société. Et c'est plus rassurant. On sait que dans cette assemblée, s'il y a, je sais pas, il y a 600 personnes, même si au niveau statistique, il faut à peu près 1000 personnes par rapport à la France pour être vraiment, pour coller à la réalité sociale du pays. On sait que dans ces 1000 personnes, par exemple, bon, bah, il y aura quelques cinglés, quelques-uns qui ont des mauvaises intentions, comme il y en a effectivement tous les jours autour de nous, ça existe, mais leur poids sera très faible sur le tout, et ça va, ça, les gens l'acceptent. Par contre, quand on dit qu'on va désigner au sort un président, un magistrat, etc., effectivement, là, c'est un peu plus compliqué. Mais les Athéniens élisaient leur maire, l'équivalent de leur maire, tous les jours. On changeait de maire tous les jours. Voilà, par exemple. Ça nous paraît aujourd'hui un peu... on va pas lire un magistrat tous les jours et changer de magistrat tous les jours, par exemple. Effectivement, ça pose des questions. Donc là, on peut pas, je pense, se passer totalement de la représentation. Et là, on a les outils donc, du contrôle, de la révocabilité, des mandats plus courts, etc. Voilà les outils qu'on a pour éviter toutes les formes de corruption.
Je veux dire, par rapport à la police, on peut imaginer une assemblée tirée au sort qui ait pour rôle, pour mandat, de contrôler la police, ouais. De contrôler ses agissements, etc.
Parce que
c'est ce genre de choses.
Dans le système de l'autre côté de l'Atlantique américain, eux, ils élisent leur shérif, ils élisent leur magistrat.
Oui.
Avoir un mix de tirage au sort et d'élections sur plus tirage au sort d'assemblée de contrôle, ça peut être une bonne équation ou pas ?
En France, nous avons l'expérience des jurys d'assises, par exemple.
Oui, ça c'est vrai.
Donc ça, ça peut peut-être s'étendre un peu plus tout de même, pas seulement pour donc, le droit pénal, ça pourrait être aussi pour d'autres formes de droit, d'avoir des jurys populaires désignés par le sort. C'est intéressant que ça subsiste, cette expérience-là. Voilà, la décision n'est plus entre les mains d'un seul homme, elle est partagée, même si bon, il peut y avoir aussi trafic d'influence en ce domaine, mais ça limite quand même le risque d'avoir, par exemple, 10 personnes qui vont faire pencher la balance au niveau de la décision.
Je vous propose une petite pause musicale avec Le Chant des Paysans par Pierre Dupont, écrit en 1849. Vous allez peut-être reconnaître l'air.
Quand apparut la République, dans les éclairs de février, tenant en main sa longue pique, la France fut comme un brasier dans nos vallons. Et sur nos cimes, verdit l'arbre de liberté. Mais les 45 centimes, des juins plus tard, ont tout gâché. Oh, quand viendra la belle, voilà des milliers et des cent ans que j'enquêterai ta peine. République des paysans, République des paysans.
Et vous êtes toujours dans l'émission Micro-Rebelle Hebdo, que vous écoutez ou bien sur notre site microrebelle.fr, en live ou en podcast, ou bien sur les ondes du 99.9 à Arras. On est avec Xavier Morin et on parle du tirage au sort. Et c'est passionnant, malheureusement, cette émission arrive bientôt à sa fin. Alors vous écoutiez Le Chant des Paysans qui a inspiré la Semaine Sanglante, vous aurez peut-être reconnu, par Pierre Dupont. Alors revenons à nos...
Oui, on n'a pas tout à fait tout dit sur ce qui oppose l'élection au tirage au sort. Effectivement, on a évoqué les partis politiques, la classe politique, que ça génère, le caractère obscur de la désignation des candidats que nous ne choisissons pas finalement, les problèmes de corruption, de financement, de passage médiatique. Et par exemple, tout à l'heure, tu as évoqué la promesse électorale. Qui bien souvent s'avère un mensonge, enfin quasiment toujours, ben voilà, dans le tirage au sort, comme il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de promesse, et comme il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de mensonge. Tout ça, ça disparaît. Mais encore d'autres aspects, on voit bien par exemple que l'élection, en fait, finalement, quand on l'observe, elle va finir, quoi qu'il arrive, par désigner celui qui veut à tout prix le pouvoir, celui qui a lutté toute sa vie pour le pouvoir. Et ça me semble très malsain. Tandis que celui qui est désigné par le sort, Il n'a pas lutté pour ça. Il va même peut-être un peu hésiter, parce que bon, je pense qu'il faut lui accorder le droit de refuser. Tout de même, on ne va pas forcer les gens à prendre le pouvoir s'ils ne se sentent pas à l'aise avec ça. Donc il va être incité, un petit peu incité autour de lui à accepter, mais il pourra refuser.
Avec
en tout cas, il n'aura pas.
Avec une rémunération éventuellement.
Pardon ?
Avec une rémunération.
Ah oui, bien sûr, il faut absolument qu'il y ait compensation économique par rapport à son entreprise et par rapport à lui-même, ça c'est évident. Parce que ça peut être un mandat quand même, par exemple, de 2 ans, donc ça pose des soucis. Bien sûr, il faut absolument que ce soit viable pour tout le monde. Quoi. En tout cas, celui qui sera donc ainsi désigné n'aura pas été quelqu'un aux dents longues, qui a lutté toute sa vie pour obtenir le pouvoir.
Pourquoi donner le pouvoir à ceux qui le veulent.
Voilà, ça c'est très très sain. Je pense que ça, c'est à la limite, on aura peut-être pu commencer par cet argument-là, même s'il découle beaucoup des autres, hein, de la des partis politiques, etc. Et puis ensuite, mettons-nous à la place de celui qui a été élu. Rendez compte, le mot élection, élu, c'est un mot religieux. Élu, il est au-dessus de nous. C'est vraiment ça. Dans l'ordre symbolique, c'est ça, et c'est très très fort, et ça fonctionne très très fort. D'ailleurs, on cherche l'homme qui va incarner la République, enfin tout ce cirque.
C'est un gros problème, hein, dans l'idéal politique. C'est un problème énorme, je trouve. Hein.
C'est la personnalisation politique, c'est un vrai problème.
Comme si on attendait un messie.
Voilà, dans la Ve République, c'est particulièrement puissant, où l'élection présidentielle est tellement centrale, voilà. Voilà. Et donc cet élu, forcément, imaginons, des millions de gens ont fini par le désigner, il se sent supérieur, nécessairement, je pense que c'est humain. C'est humain, de même que celui qui est hyper riche se sent supérieur. Il décolle du réel, de la réalité, et c'est une forme de pathologie qui commence à arriver. Je trouve qu'on voit souvent dans les gens très riches, ou les élus de très très haut rang, des pathologies qui apparaissent dans leur langage, dans leur novlangue, dans leur... Et toute la mise en scène de ce pouvoir-là. Alors le tirage au sort fait table rase de tout ça, ça me semble évident, c'est assez flagrant. Voilà.
Et je parlais des institutions question subsidiaire, mais il y a aussi une autre question que pendant la 4e République, il me semble, auquel les élus se sont confrontés, c'était le mur de l'argent et notamment la Banque de France qui appartient aussi à un groupement, mais adverse justement, les capitalistes, les 500 familles. Oui. Comment en fait on lutte contre ça aussi avec le tirage au sort?
Voilà, alors ça c'est intéressant, il faut écouter Henri Guillemin, l'historien sur le sujet, sur l'histoire de la Banque de France à l'époque de Napoléon le premier, le premier Napoléon, 1802 je crois. La Banque de France, bien des gens seraient surpris d'apprendre que c'est une institution privée, moitié suisse, moitié française, et que Napoléon leur a donné le droit de s'appeler Banque de France et de prospérer. Alors comment contrôler ce genre de choses, comment éviter ce genre de dérive? Effectivement, moi je pense que là, c'est d'abord par la révolution dans le domaine économique qu'on peut contrôler ça. Effectivement, là il y a le mur de l'argent, il faut que nous reprenions le pouvoir sur le travail et sur la production. Enfin, je fais même une erreur quand on dit reprenions, nous ne l'avons jamais pris. Ce pouvoir, nous ne l'avons jamais eu, ou alors dans des temps très lointains, dans le communisme primitif.
Du moins, il y en a qui essayent de le prendre en faisant des groupes cigales, par exemple, mettre leur économie en commun pour...
Oui, alors il y a beaucoup de formes très innovantes, très créatives.
Effectivement, on ne l'a pas, le pouvoir économique.
Mais ce sont des formes qui sont intéressantes à observer, mais qui sont toujours du domaine de la microéconomie.
Oui.
Il nous faut un changement macroéconomique, comme l'a été le régime général de la sécurité sociale, où là on a, par exemple, rien que la santé, c'est 10 à 12% du PIB qui a été, en tout cas, parce que depuis, notamment, il a été attaqué, mais qui a été sous contrôle et gestion populaire, et qui a créé le meilleur système de santé au monde. Et là, donc, c'est macroéconomique. Il y a aussi le système des retraites, etc. Donc là, on a à peu près 25 à 30% d'économie.
C'est la problématique de l'été, j'ai l'impression.
Oui, certainement, on va encore se faire attaquer sur ce point. Tout ce qui vient du régime général de 1946 est attaqué violemment, évidemment. Donc, c'est bien la preuve que le cœur du pouvoir, ce n'est pas tout ce cirque électoral. Le cœur du pouvoir, c'est le travail. Le pouvoir sur le travail et sur la valeur.
Sécurité sociale alimentaire aussi, pourquoi pas, une banque alimentaire.
Alors ça, c'est un gros dossier défendu par mon association, Réseau Salariat. Enfin, nous ne sommes pas les seuls, nous avons des partenaires, mais oui, c'est une sécurité sociale de l'alimentation qui, un peu plus ou moins sur le modèle de la sécurité sociale de la santé. Et là, effectivement, là en face, il y a l'industrie agroalimentaire. En face, il y a le Crédit Agricole pour les paysans. Et il y a McDo, Carrefour et compagnie. Voilà, c'est une lutte de David contre Goliath. Mais bon, on a bien réussi à le faire pour la santé. Pourquoi nous ne parviendrons pas le faire dans l'alimentation?
Ouais. Et puis, comme il y a urgence pour le climat, aussi de plus en plus de gens le veulent véritablement reprendre le pouvoir. Il y a urgence.
Une conscientisation progressive, j'espère. Je ne sais pas si ce sera suffisant, si... Il faut pousser en ce sens, faire de l'éducation populaire au maximum, essayer de conscientiser sur ces questions. Le travail est énorme, c'est un travail de fourmi, mais c'est aussi un plaisir de le pratiquer à chaque fois que c'est possible, par exemple dans cette émission ou en faisant des ateliers.
Donc toi, on peut faire appel à toi pour différents ateliers. Quelqu'un tient un lieu culturel, est intéressé pour t'inviter, même éventuellement faire ça... en salon, tout ça, tu fais des ateliers?
Ah oui, je me déplace dans toutes les situations, aussi bien, je sais pas, dans des syndicats, dans des radios, dans des groupes de travail divers et variés, même parfois chez des gens, dans des appartements. Et même si, bon, mon domaine de prédilection, c'est le travail, c'est l'histoire de la sécurité sociale, c'est le salaire à vie, etc. La propriété des moyens de production, tout ça, toutes ces questions-là, même la monnaie aussi. Puis j'ai étendu donc avec les questions de démocratie, ça m'intéresse beaucoup, mais oui, sur tous ces sujets-là, j'aime intervenir et essayer donc à chaque fois, que ce soit dans des circonstances où la participation est la plus large possible. Je ne prétends pas non plus venir avec un... Bon, j'ai des convictions très fortes même, mais je ne prétends pas venir avec un savoir absolu. Il s'agit de...
Oui, et puis tu explicites ton point de vue situé, tu dis d'où, voilà, tu pars.
C'est très important.
Et donc, il n'y a pas d'entourloupe sur ton engagement. Tu as un engagement, tu as une parole engagée, mais qui est dont on peut voir les ficelles, on va dire, on peut voir où tu te situes.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je ne suis candidat à rien déjà, premièrement, donc j'ai rien à gagner personnellement dans ces interventions, ni argent, ni poste, ni gloire, rien du tout. Donc ça, c'est quand même assez important. Voilà, bon, maintenant, oui, effectivement, c'est un point de vue situé. Je me présente tel que je suis. Bon, je suis bouquiniste, par exemple. C'est ma situation sociale. Je suis travailleur.
En tant qu'étudiante, tu étais libraire nomade devant la bibliothèque.
Voilà, donc je suis un travailleur indépendant dans le secteur du livre d'occasion. Et puis, ma ligne politique également, je ne la cache pas. Je suis vraiment dans la famille, la galaxie marxiste. Voilà. Comme ça, les choses sont claires. Il n'y a pas d'entourloupe de ce point de vue-là, quoi.
Eh ben, c'est passionnant tout ça. On en arrive à la fin de notre émission.
Déjà.
Déjà, on te réinvitera avec plaisir sur d'autres thématiques ou encore sur celle-ci, parce qu'il y a encore beaucoup à explorer,
hein, autour de
tant la démocratie que la critique du système électoral tel qu'on le connaît, et puis même en théorie. Il est temps pour nous de dire au revoir à nos chères auditrices et auditeurs. Merci d'avoir écouté.
Merci pour tout.
Là.
Au revoir.
Au revoir.
Micro Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.